Chers amis, avant de débuter ce podcast, nous voulions remercier O'Neill, le partenaire de cet épisode. On vous invite à aller voir toutes ses nouveautés sur son site internet O'Neill.eu. Bonne écoute et régalez-vous.
Salut à tous. J'ai commencé une saison de podcast. Il y en a 12 qui vont arriver. Avec des gros pilotes, des légendes même, on dira. L'idée, c'était de faire tous les champions du monde. Donc, j'ai pas réussi le premier coup. Ça va venir. J'ai la chance et l'honneur de vous dire que ça va être diffusé sur MX2K. J'ai essayé d'en faire un premier sur moi, vous expliquer pourquoi, parce que, et vous faire découvrir jusqu'où on va aller. Donc, si vous avez des critiques, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de m'améliorer pour les prochains coups. À bientôt.
Alors, Antoine, qu'est-ce qu'on est venu faire là aujourd'hui? Pourquoi on est là?
Alors, on est là pour parler un petit peu de mon expérience. J'ai trouvé à la base une idée de Red Bull au Touquet qui m'ont fait venir pour un partage d'expérience.
D'accord.
J'ai trouvé ça très intéressant et en fait, j'ai pas réussi à trouver d'interlocuteur média qui aurait pu publier ce que j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit, il faut voir avec Alban qu'on fasse un truc bien. Donc voilà, on est là. Pour parler de mon parcours, de mon jugement, bon ou mauvais, de ce que je pense, et voilà.
Alors, ton parcours justement, est-ce que, alors tous les fans d'enduro te connaissent évidemment, mais au-delà de ça, c'est quoi ton parcours toi? Comment t'as commencé dans la moto? Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ? Comment tu t'es jeté là-dedans?
Alors c'est un parcours un peu atypique, dans le sens où j'ai commencé très jeune. Mon père faisait de la moto, j'ai commencé à 4 mètres de là où on est, avec un Piwi, 3 ans et demi ou 4 ans. La passion, moi, c'était vraiment faire de la moto, rouler. Mon père, très jeune, me faisait faire des balades, j'allais à l'école en moto, je faisais quelques courses, du cross, mais j'allais à l'école en moto et vraiment je roulais, j'avais besoin de personne pour rouler, il me fallait de l'essence. Donc j'ai beaucoup habité chez mes grands-parents parce que ma mère est tombée malade jeune. Donc mon grand-père ou ma grand-mère, tu peux leur demander, ils te diront que je siphonnais tout ce qui traînait. À 5 ans, j'étais capable de, avec un tuyau, siphonner une 2 chevaux. Largement, c'était dans mes compétences. De faire le mélange et d'aller rouler que la moto, tu vois. Donc voilà, ça c'était grosso modo ma vie. Il y a un gros paramètre qui rentre dedans, c'est que Michael Machou est d'ici et on est amis avec lui. Donc, il roulait tous les mercredis et tous les samedis quand il n'y a pas de course. J'allais rouler avec lui tout le temps. Et Mickey était un petit gabarit. Tu sais, il doit faire 1m70, 65 kg, quelque chose comme ça. Du coup, il était capable de prendre ma 80, de faire un tour de repère. Et de faire des sauts de fou et de me dire, voilà, aujourd'hui, le meilleur pilote, la référence à l'heure. Et du coup, en fait, moi, grosso modo, je faisais des courses de ligue, tout ça, mais je n'allais pas au championnat de France, rien du tout. C'était vraiment... à l'entraînement, tu vois, le niveau était plus haut à l'entraînement. Je sautais des sauts à l'entraînement qu'en course, il n'y avait jamais, quoi.
Quand c'est que tu as su que tu avais le potentiel ou est-ce que tu t'en es rendu compte à un moment donné? Toi tout seul ou on te l'a dit? Comment
non.
Ça se passe?
Bah, c'est difficile de s'en rendre compte. Non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 12 ans, je m'en souviens très bien aussi, mon père, donc j'avais qu'une moto, forcément la moto, elle prenait 800 heures par an, elle était poncée à la fin. Du coup, mon père, il y a cette année, on essaie d'acheter 2 motos, une d'entraînement, une de course, ça sera mieux. Parce que mon père faisait des saisons de boulanger, donc il n'était pas là l'été, donc c'était moi à 10 ans qui faisais la mécanique. Ouais. Donc je ne t'explique pas le chantier. Et du coup, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je pense que là, c'est une question qui a quand même grosso modo changé ma vie, parce que mon père, à 12 ans, il t'attrape, il te dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, toi, pris d'un élan de folie, tu dis, bah, je veux faire pilote de moto, professionnel, comme Mickey. Ouais, bah, à partir de maintenant, on va travailler. Et tu sais, ce truc-là a été violent parce que tu sais, dis, on va travailler, le soir t'es excité, tu dis, ah putain, j'ai ma chance. Et là, en fait, le matin, il dit, on va faire un truc. Si tu prends le bus le matin, le soir, tu rentres de l'école en courant. Donc, il faut calculer qu'il y a 8 km. Donc, le soir, mon voisin prenait mon sac à dos et je rentrais en footing. Et là, quand tu cours le long de la rivière, tout seul. Tu te dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Et sur le coup, pas plus que ça. Après, plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai dit oui?
Et c'est ça qui a forgé, on en a parlé des dizaines de fois tous les deux, c'est ça qui a forgé chez toi le goût du travail en dehors. Tu sais, on disait souvent, mais oh, il est toujours en train de rigoler aux compétitions, mais les gens ne voient pas tout le travail qui était fait avant. C'est, là que c'est à ce moment-là que le cerveau, il se formate pour dire, ok, maintenant, si je veux être un champion de haut niveau, un athlète de haut niveau, il va falloir travailler.
Non, on me l'a inculqué. Après, des personnes, tu vois, grosso mon cursus, c'est ça. C'est, donc, j'ai fait la Ligue en 80. Au moment de passer en 125, j'étais... En fait, non, à 13 ans, j'étais trop grand pour le 80, tu vois. À 12 ans, j'étais bien. 13 ans, j'étais trop grand, je cassais des cadres et tout. Mais j'étais inconnu au bataillon, je faisais pas championnat de France, rien du tout. Je crois que... À 12 ans, j'ai cassé 12 cadres dans l'année. Ils n'en pouvaient plus chez Honda. Ils en ont pris 8 en garantie, je crois. Et après, les cadres, ils n'en pouvaient plus. Et le gars de chez Honda appelait le concessionnaire pour savoir qu'est-ce que moi, je faisais avec la moto. Si je sautais des immeubles ou... Non, mais grosso modo, tu vois. Donc, on a un ami, on en a racheté un, il avait renforcé. Ça pétait toujours, quoi. Mais tout ça, parce qu'en fait, indirectement, aujourd'hui, je sais t'expliquer pourquoi. Il y a 10 ans en arrière, même 20 ans, même mon père, il ne sait pas te dire pourquoi. Ouais. Mais en fait, c'est Machio. Machio, en fait, il prenait ma moto, le niveau d'un pilote lambda en 80, il était là, et lui, il le mettait là. Et en fait, un jour, on va à une course à Pertuis, j'étais dans la moyenne, et j'avais 11 ans, on est allé faire la course à Pertuis, et ils avaient modifié le terrain. Et grosso modo, pour te dire, ils avaient fait un camel, le matin, il y a dû y avoir au moins 10 ou 15 clavicules glacées, avec les gens en 125, en 2,5, tu vois. Des... Ouais, ouais. En fait, mais moi, je sautais le saut. Mais il n'y avait rien. Moi, j'étais trop content qu'ils aient fait un saut comme ça. Et en fait, après le départ, ça faisait un virage. Il y avait deux tables. Et à l'entraînement, Machio m'avait fait sauter les deux tables. Du coup, moi, en fait, depuis toujours, mon état d'esprit, tu m'apprends un truc, c'est validé, on n'y revient plus dessus. Ouais. Moins à l'école. Mais sur la moto, c'est beaucoup plus ça. Et en fait, donc j'arrive à la course, c'est la finale de la Ligue. Et en fait, là, aux essais, je commence à sauter le truc et tout. Les commissaires affolés. T'imagines, un commissaire qui a 60 ans, il est là. Il voit un gosse en 80 qui saute deux tables d'affilée. Et les gars, en 2,5 ou 125, ils le faisaient pas.
Ouais.
Donc là, ça a commencé à gueuler grave. Ils ont fait une chicane. Entre-temps, j'ai cassé le cadre de la moto. Et aujourd'hui, ce circuit, il a une chicane depuis. Ils ont gardé les deux tables, mais la chicane, elle est... Mais tout ça pour te dire qu'en fait, elle est où la limite? C'est la personne qui te l'inculque, tu vois. Donc... J'ai voulu passer en 125, mais j'étais trop jeune, pas l'âge, pas de licence. Du coup, mon grand-père est tombé malade en Italie. Donc, mon père a décidé qu'on parte tous là-bas pour essayer d'aider la famille. Et du coup, ben, là-bas, la vérité, c'est qu'on a bricolé les papiers. J'ai pas la double nationalité, mais là-bas en Italie, j'ai une carte d'identité et une licence avec un an de plus.
D'accord.
Donc, j'ai pu rouler en 125 là-bas. Quitte à être là-bas, on faisait des courses.
Ouais.
Ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait du championnat d'Italie. J'ai dû faire championnat d'Italie 125 cadetti, ça s'appelait. Je crois que j'étais, je pouvais pas gagner parce que le premier roulait très très fort. Je me battais pour la deuxième place. Le premier qui roulait très fort n'a jamais rien fait. Il a joué un titre de champion d'Europe plus tard quand j'étais, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Contrairement à tout ça, il y avait Keroli. Keroli, je crois, il doit faire 14 ou 15. Il y avait Salvini, il y avait Philippe Hertz, il y avait De Angelis, il y avait vraiment beaucoup de monde que par la suite on a retrouvé, tu vois, ouais, c'était une grosse année de
champion.
Et tu vois, à cet âge-là, ben, Keroli, qui est l'un des plus titrés, il n'était pas à son avantage.
Ouais.
Tu vois, comme quoi des fois la vie c'est bizarre. C'est pas bizarre, en fait c'est quand tu prends du recul que tu comprends. Et
qu'est-ce que t'as compris alors? Dis-moi tout de suite ce que t'as compris.
Le travail. Keroli, techniquement, c'est pas ouf. L'entourage et le travail. Moi, Keroli, je l'ai vu se métamorphoser devant moi.
Ouais.
Il passait du gars qui se qualifiait jamais. Une année, il roulait chez Honda avec un 125. Il a fait tous les Grands Prix, il s'est jamais qualifié. L'année d'après, il a gagné des manches, il finit quatrième du mondial.
Alors, de ton point de vue à toi de champion, et avec ton vécu à toi, ça tient à quoi ces petits... Ce passage de cap, parce que toi, t'en as passé aussi, on pourra en parler, mais ouais, ça tient à quoi?
Déjà, tu sais, quand tu roules derrière, que tu te bats tout le temps, c'est dur. Très dur. Et lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a galéré pendant des années, il s'est affûté les chicots, dans une structure où il était la fédération. En fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vraiment, on va discuter d'une chose très importante. C'est qu'en fait, en Italie, passé un moment, la fédération donnait des sous à des teams pour sortir des jeunes. Mmh. Et ça, ça vaut zéro. Parce qu'en fait, ils donnaient des finances à une team. Honda Martin, qui était le team où j'ai roulé par la suite, prenait les sous, le mettait dans la poche, mettait le pilote là, ils encaissaient. Et en fait, ça, c'est pas la bonne solution. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, ben, en fait, la fédération a insisté et ils ont donné l'enveloppe à De Carli. De Carli a pris le petit Keroli. Et en fait, de là, il a créé un entourage autour de lui. Et l'entourage, il fait 90% des choses. Et du coup, à partir de là, après, ça fait une explosion. Il roulait beaucoup avec Federici, qui était un très bon pilote techniquement. Et là, de suite, ça a passé un cap. En fait, il lui a apporté ce qu'il manquait. Et après, Keroli, très bon starter. Donc, il part toujours devant, toujours devant, toujours devant. Et ben, au début, il partait premier, il finissait 9. Mmh. Après, il partait premier, il finissait 5. Après, il finissait 4. Et après, il restait devant. Et du coup, et après, l'entourage. Il a toujours été là. Là, Keroli, il quitte son team. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec le même team. C'est du jamais vu, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est dur.
Toi, t'as le... T'as... Alors, c'est pas la même histoire aussi, mais toi, à quel moment tu... Qu'est-ce qui fait que tu passes un cap? Comment, maintenant que t'analyses ta carrière
Ben, en fait, c'est au retour d'Italie. Donc, on fait ça. Mon grand-père va mieux. On rentre en France. Je continue à rouler tranquillement avec ma chiot, tout ça. Et là, ben, forcément, 14 ans, on fait la course de ligue. On va à la première course de ligue. Et là, je faisais plus le même sport qu'eux, quoi. Et du coup, il y a un gars de la ligue, il dit à mon père, il travaille toujours, c'est un instructeur, c'est Jean-Marc Charpin, il dit à mon père, mais il faut aller au championnat de France. Et mon père, il dit, mais qu'est-ce que tu connais foutre au championnat de France? On avait un vieux camping-car, une moto. Il dit, non, mais il faut y aller et tout. Et en fait, c'était une époque où il y avait des qualifs de début d'année. Donc on va à la course, elle était à Wart, pas très loin d'ici. Il pleuvait tout le week-end, donc déjà on arrive, nous, moi du sud, la pluie, tu vois, c'était pas mon fort déjà. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que le dessous était dur. Donc déjà on arrive un pneu, dur. Tu vois, dans la moto, les pneus ça compte beaucoup.
Ouais, bien sûr.
Moi j'avais un pneu arrière et c'était un pneu dur. Et bah, du coup, je gagne les deux manches. Et en fait, par la suite, mais beaucoup de choses, tu vois, on a rencontré une personne ce jour-là qui m'a présenté mon mécano avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans. Et tu pourrais y demander. Il a appelé mon mécano en lui disant « Il faut que tu viennes voir, il y en a un, il va plus vite dans les virages qu'en ligne droite. » Et tu vois, ce gars-là, il vient voir mon père. Alors mon père, déjà, imagine la scène. On a un vieux camping-car 508. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est très vieux déjà, de base.
C'est celui qui est là-bas?
Non,
non,
Pierre.
Il n'est plus là.
Ah ben oui, non, Pierre. C'est un camping-car à Mad Max.
D'accord.
Et mon père, botte en caoutchouc, bleu de travail. Tu vois, la vraie salopette bleue de plombier.
Ouais.
Et avec la moustache et tout, Michou, boulanger. Et l'autre, il vient voir mon père, il dit « Tu vas lui changer le pneu ?» Mon père, il regarde, il fait « Non, il est nickel. » Il dit « Mais c'est un pneu pour le dur. Ben, » il dit « Alors ?» Et du coup, le gars, il dit « Mais toi, t'es fou, toi ?» Donc, je gagne les deux manches. Le type, là, en fait, il avait un gros camping-car. Il vendait des pièces sur les courses, des accessoires. Et après, c'est devenu un ami. Et le soir, il est arrivé, il m'a offert un pneu. Il me dit, franchement, jeune, faire ce que t'as fait avec ça. Il m'a donné un pneu. Et du coup, il me dit, mais t'as pas des pneus pour faire la saison et tout? Alors mon père, il dit, non, mais quelle saison? Ben, il dit, là, il a gagné, vous allez faire tout championnat de France. Mon père, il dit, on n'a pas un radis. Tu vois, et puis les courses, elles étaient loin, quoi. Et du coup, ben, lui, il nous trouve des prix avec Bridgestone. Donc ça démarre un peu comme ça. J'ai fait 4 courses, 5, 4. Du championnat de France, seul avec mon père. Et là, en fait, à une course, il y a un gars qui vient voir mon père, c'était l'entraîneur d'équipe de France, et il dit, mais d'où vous sortez-vous? Comment tu t'appelles? Alors mon père, il dit, bah, je m'appelle Méo, et ça, mais on ne vous a jamais vu. Ben, mon père, il dit, bah, je ne sais pas, on a... Bon. Il dit, à quel âge ton fils? Ben, il dit, 14 ans. Ton fils, il a 14 ans. Et à partir de là, le gars, il dit, attends, ça nous intéresse et tout. Entre-temps, il y a un pilote qui se blesse. Moi, j'avais... de contrat avec personne. Donc le pilote se blesse en milieu d'année. Il me dit, écoute, tu viens, tu fais 2 courses. Donc, ben moi, le rêve de ma vie, tu vois, je me retrouve pilote semi-usine, tu vois, ouais, grosso modo. Ouais. Pas semi-usine, mais dans un team, une belle structure. Et là, en fait, on va à la première course. Il me dit, voilà, si tu te qualifies, on te prend l'année prochaine. Autant te dire que j'ai joué ma vie, donc j'ai vu passer la mort 10 fois pendant le week-end, beaucoup d'engagement. Et puis en fait, ben ouais, je suis resté en équipe de France, ils m'ont pris. Très difficile avec la fédération parce que pas de cursus et tu sais de
Quand tu dis très difficile avec la fédération, tu penses, enfin toi tu
oui,
pour toi tu dis que tu as toujours eu des problèmes de communication avec la fédé, c'est ça que tu veux dire?
Non, alors
t'as jamais été accepté comme
c'est compliqué, tu vois, t'arrives dans un cursus où j'ai pas fait les filières éducatives, j'ai pas fait tout ça, t'arrives du jour au lendemain, tu tombes, tu sors du chapeau et on te met en équipe de France. Alors,
les filles. Ah oui, mais tu cassais la tronche à tout le monde aussi.
Je cassais pas la. En fait, j'avais un potentiel, pas grand monde le voyait.
D'accord.
Et très difficile à faire comprendre aux gens. Et puis, ben, j'ai eu la chance, c'est que cette fameuse personne, elle s'appelait Jean-Jacques Bruno, et croyait en moi mieux que personne. Et en fait, ce gars-là a vraiment. Tu vois, du moment où je suis rentré avec lui, ça a été très dur mentalement. Mais il m'a fait passer en deux ans des gros caps.
Ouais.
Où vraiment mental et technique. Et du coup, ça a vraiment déclenché. Et grosso modo, ce que je vais t'expliquer, c'est que moi, en trois ans, je suis passé de la course de ligue avec mon père et son camping-car à pilote d'usine chez De Grotte à 17 ans, tu vois. En trois ans, tu te rends compte, ça a été violent, en fait. Et j'étais pas prêt pour ça. Pas structuré.
Pas prêt dans ta tête? Parce que physiquement, si.
Pas prêt avec mon entourage.
Ouais, d'accord.
Un peu des erreurs de tout le monde, de ma part, parce qu'à 17 ans, t'as du mal à t'entourer. Un peu de mon père qui aurait dû, lui, prendre du recul, dire « Écoute, moi, je suis boulanger, je vais rester à ma place. » Et du coup, voilà. Ça, c'est mes erreurs. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup dans leurs enfants très tôt, trop tôt. Tu pars à l'Europe en 65, mais tu sais pas, et tu peux briser quand même une famille
et un enfant.
Moi, j'ai vu des choses de fou, tu vois. Donc suite à ça, je suis passé 17 ans, la chance, toujours macho, donc tu sais, comme je t'ai expliqué, moi, ma carrière, je la vois comme une pyramide, donc macho est une grosse pièce de ma pyramide, mon mécano Fred aussi, Jean-Jacques Bruno aussi, un gros pilier. Et après, ben, Jacques Vimont, beaucoup d'entraîneurs, tu vois. Et grosso modo, en fait, Machio champion du monde, moi champion d'Europe la même année à 16 ou 17 ans. Et en fait, l'hiver, on s'entraînait ici, on roulait sur des petits circuits. Et il y a un jeune de chez nous, la star vivante 65-85, il avait tout gagné. Et en fait, il avait déjà un statut de pilote officiel chez Yamaha. Et à 14 ans, il passe en 125. Et en fait, au contraire de moi, qui ai mangé du pain noir tout le temps, lui, en fait, il a toujours été bon. Et du coup, bah, il avait arrêté l'école et tout. Et ses parents lui demandent de venir à s'entraîner avec nous, vu qu'on roulait à Palonche. Donc, il vient avec nous. Ce gars-là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sa dernière course en 80, il l'a faite au mois de septembre aux États-Unis à Las Vegas, en supercross, et il a battu James Stewart. James Stewart, c'est une légende de la moto. Mmh. Et ce gars-là, il a battu. Tu te dis, putain.
Il doit envoyer.
Ouais. Aujourd'hui, il est magasiné chez Toyota. En fait, tu vas chez Toyota, acheter un filtre à air, tu vois un gars qui a battu James Stewart. Je pense qu'il n'y en a qu'un dans le monde entier, il est là. Non, mais c'est un truc de fou, tu vois, c'est paradoxal.
Ouais. Et comment ça s'explique, ça?
Eh bien, en fait, premier entraînement, il prenait 5 secondes au tour, deuxième entraînement, il en prenait 6. Mais tu sais, tu te bats avec un gars qui est champion du monde, champion d'Europe. Et là, en fait, ses parents, ils disent, bon, mais maintenant, il va falloir s'entraîner, il va falloir travailler. Le terme exact, c'est maintenant, il va falloir travailler. Il dit, mais moi, j'ai du talent. Ouais, mais là, il faut travailler. Et moi, j'ai toujours eu du talent, jamais travaillé. Ouais. Et ce gars-là, il n'était pas prêt à travailler. Et en fait, tout ça, alors d'une part, ça l'a dégoûté de la moto. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la moto, c'est quand même un loisir et un sport. Et du coup, ben, malheureusement, lui, en fait, il a dit à ses parents, j'arrête. Les parents, ils avaient vendu la maison, le machin. Et il a dit, j'arrête, je vais travailler. Il a tout arrêté.
Ouais.
Et tu vois, et en fait, je pense que l'erreur, c'est que ben, déjà, il était en équipe de France. Donc, la fédération ne l'a pas soutenu. Tu vois, en fait, il faut structurer les gens.
C'est ça ton message principal, c'est il faut les jeunes sportifs, même au-delà même de la moto, mais là parce qu'on parle de moto, il faut presque contre eux les entourer et les guider.
En fait, il faut juste calmer un petit peu les parents, calmer, tu vois, la fédération, où je suis pas d'accord. Moi, mon fils, sa moto, elle est d'origine. Le petit voisin avec qui il roule, qui a un gros potentiel et qui sera, je pense, s'il n'y a pas de gros pépins, si j'arrive à gérer son père. Hein. Ouais. Parce que son père fait gros paramètres dans la chose. Hein. Ça sera un pourcel, tu vois, largement. Ouais. Par contre, moto d'origine. Tu vois, là, il va aux courses, il finit cinquième, il est énervé, le gosse. La moto, elle est d'origine. Il se bat avec des gamins qui ont des motos à 15 000 euros. En fait, le fait d'avoir des motos vachement préparées trop jeunes, tu compenses. Le gosse, en fait, il apprend pas la technique.
Il travaille moins.
Ben oui, la moto le fait pour lui. Mmh. Et du coup, en fait, dans les petites catégories, l'écart est comme ça. Et en fait, plus ça avance, la moto, plus tu la prépares, la différence, moins liée. Par contre, le gamin qui a appris à se servir de ses jambes, du regard à éviter les trous...
Et ouais. Et c'est comme ça que t'inverses le truc.
Et du coup, c'est relativement marrant, tu vois. Il y a un pilote aujourd'hui qui révolutionne. En fait, c'est pas qu'il révolutionne. Il y a James Lawrence qui arrive, on le voit comme le messie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ces 5-6 dernières années, on est retourné à des pilotes beaucoup avec un gros cœur. Moins de technique, beaucoup d'engagement, les pieds un peu qui traînent, un peu chiffon, tout ça. Et en fait, on retrouve un pilote qui roule avec une vraie technique. Et là, on dit, mais en fait, non, on avait Pourcel il y a 10 ans. Son caractère, son personnage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on juge, moi, je l'ai vu faire des trucs de malade mental, du talent. Une technique, un toucher de moto, une facilité. Sauf que ça, déjà, ben, on le laisse mourir. Tout ça, tout ce savoir, il est dans une personne qui est encore vivante. Mais cette personne, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle explique aux jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Et derrière, on en sortira 10 ou 15 des gosses comme ça. Parce que il avait quelque chose de différent de nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, aujourd'hui, ce pilote, on le voit, on dit, putain, il sort du lot. Mais non. Quand il roulait en 80, c'est Pichon qui m'a dit ça. J'ai eu Michael il n'y a pas longtemps au téléphone. On en discute. Il me dit, mais Antoine, à 14 ans ou 13 ans, il roulait avec son 80 Suze à Lommel. Il était écœurant à voir rouler. Écœurant de facilité. Il dit, tu vois des gars qui faisaient le mondial, ils n'avaient pas sa technique.
Ouais.
Et le gars, il roulait avec un 80 Suze il y a 5 ans. C'est une daube. Ouais. Et on te la donne, tu la prends pas. Et lui, il roulait avec ça parce que les parents, ils s'étaient saignés pour le père, pour le grand frère. Et du coup, eh ben souvent, ce qui se passait, c'est que lui, il faisait pas de course, il faisait que les entraînements, mais que avec des bons. Et en fait, quand ils ont signé le grand dans le team, ils ont vu le petit, ils ont dit, on prend les deux.
Ouais.
Et de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Le père, il a eu la brillante idée de travailler avec Johnny O'Mara, qui était dans les années 80 un pilote super en avance sur son temps. Il n'a pas gagné beaucoup de titres, mais il était très technique et très précis. Et en fait, aujourd'hui, ce Johnny O'Mara, c'est l'entraîneur et il lui a inculqué la technique. Et du coup, on retrouve un pilote avec une technique, avec une finesse, avec. Et comme j'expliquais, aux Nations. Tu le mettrais seul, t'enlèverais tout le monde. Que lui qui roule, tu dis, il se traîne, il roule à l'arrêt. En fait, il est tellement facile, tu ne vois pas prendre des risques.
Ouais.
Tu vois Romain Fèvre, à contrario, qui met beaucoup d'engagement, il dépense beaucoup d'énergie. Et du coup, en fait, tu dis, mais putain, Romain, là, il fait le temps de sa vie. Et en fait, il est à 3 secondes. Ah ouais, putain, merde. Tu vois, en fait, tout ça pour dire, il faut revenir à la base. La fédération, ils interdiraient les motos préparées. En dessous de 85, ça serait magique.
Ça permettrait de lisser un peu niveler. La différence et que les gamins soient plus sur la technique et sur apprendre.
Exactement. Apprendre, ben oui, parce qu'en fait, avec une 65 d'origine, si tu n'as pas de technique, tu ne peux pas rouler vite. Il n'y a pas de suspension. Le moteur ne marche pas très fort. Tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, tu prépares la moto. Tu te rends compte, une moto à 4000 balles, tu la fais arriver à 15 000, c'est un dragster.
Ouais.
Et du coup, en fait, ça déforme tout. Et ça, c'est dommage.
Comment ça se fait? Comment on t'explique que pendant X années, même une bonne dizaine d'années, l'équipe de France, elle a piétiné un peu tout le monde dans le monde entier, avec toi, avec Nambot, avec Pela, avec d'autres, et qu'aujourd'hui, on n'est plus cette hégémonie-là, ce petit truc en plus? Pourquoi on n'a plus de gens qui cassent la tronche à tout le monde?
C'est compliqué parce que déjà, nous, on n'est pas arrivé du cursus enduro.
Mm-hmm.
En fait, nous, on est arrivé comme des cheveux sur la soupe. Donc très compliqué, il y a une culture de l'enduro en France, je veux dire, qui est très forte. Moi, je suis arrivé là, je suis sincère, je suis arrivé là par déni. En fait, grosso modo, en 2005, je roulais chez Husqvarna, ça se passait très mal la saison. Il y a eu un mondial à Digne, donc j'ai demandé à Husqvarna de me passer une moto. Je n'avais pas le permis, j'aurais demandé une 125 homologuée pour faire l'enduro de Digne. Ils m'ont dit, quand t'arrives là-bas, il y aura un gars, il s'appelle Adzaline, t'iras le voir, il aura une moto pour toi. Mais je te jure, ça s'est passé comme ça. Moi, j'arrive vendredi matin, il me dit, ah, on va essayer la moto, tout ça. Je prends la moto, je pars. Un dragster, je dis, waouh, ouais, trop bien. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais en motocross. Donc, la semaine, je m'entraînais, tu vois. Ouais. Donc, j'arrive là. On va au training. Après, ils me disent, tu sais changer un pneu? Je dis, bah ouais, je mets 20 minutes. Il me dit, ah, on va t'apprendre. Et puis, une fois qu'on finit le pneu, tout ça, on passe la moto au contrôle technique. Donc, c'est 4 heures l'après-midi. Et là, ils me disent, comment tu les trouves, les spéciales? Ben, je sais pas. Et il me dit, comment ça, tu sais pas? Ben, j'ai pas vu, moi, les spéciales. Et là, il me dit, mais tu sais, en enduro, il faut marcher. Ah, merde. Donc là, déjà, tu te rends compte, la course est demain matin, 8 heures, on n'a pas marché une spéciale. Là, spectacle. Bref, et puis à la course, premier jour, je me battais pour la victoire avec cette confiance. Oh, on m'a bien chauffé. Je suis monté en l'air. Et le deuxième jour, je crois que je dois faire 4 et 4, 4 et 5. Et à partir de là, en fait, il y a eu beaucoup de discussions pour que j'aille à l'enduro, mais moi, je voulais gagner en cross. Et deux années difficiles, deux grosses blessures. Et là, ben, la descente aux enfers. Mmh. Là, plus personne. T'es un pilote avec un potentiel. La deuxième année, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le week-end avant la première épreuve du championnat du monde, c'était le championnat d'Italie à Pontegola. Je fais la pole avec une seconde d'avance sur Coppins, Philippe-Hertz et tutti quanti. Et en fait, je me casse le genou une deuxième fois. J'ai voulu rouler comme ça pour des questions financières. Et suite à ça, plus de contrat. Suite à ça, on me dit, il faut que tu payes pour rouler. Mmh. Je dis, mais si je paye, il faut que j'aille travailler. Si je vais travailler, je ne peux pas m'entraîner. Ouais. C'est teubé ton histoire. Et bah, du coup, j'ai rebondi à l'enduro, une proposition. Il y a eu beaucoup de choses, tu vois, à cette époque-là. En plus, donc, ça s'arrête à Konda, 6 mois d'arrêt. Kawasaki cherchait un pilote essayeur. Donc, je rentre chez Kawa pour faire pilote d'essai. Je crois que c'était novembre. C'était première semaine de novembre. On faisait des tests ici. On va sur un circuit. Il y avait Swart, Swanenpool, Paulin Gauthier et Church. Pilote le plus rapide, le pilote essayeur. Violent. Vraiment violent. Donc là, j'essaye de négocier avec eux. Donc, ils me disent, voilà, un salaire de mécano. Mm. Et on te donne 3 wildcards dans l'année. Et puis, s'il y a un pilote de blessé, ben, tu roules. Violent, tu vois, tu dis, attends, je suis le plus rapide, et là, je vais me retrouver sur la touche, attendre qu'il y en ait un qui se fasse mal. Et entre-temps, Husqvarna me fait une proposition à 70 000 euros pour la saison en enduro. Bah, j'y suis allé à contre-cœur. Et puis, fatalité, le Team Kawa, un pilote blessé toute l'année, en permanence. Il leur manquait toujours un pilote. Donc, ça veut dire que j'aurais roulé toute l'année. Et en enduro, en fait, je fais deux courses. Au bout de la deuxième course, je me dis, putain, mais en fait...
Ça me plaît bien.
Ouais, c'est pas mal. Ça continue un peu. Et là, au mois d'août, ils me disent, il n'y a pas de course. Je dis, comment ça, il n'y a pas de course? Ben non, c'est les vacances. Je dis, attends, explique-moi, moi, il faut que je fasse des courses, là. Ah non, 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 il n'y a plus personne à l'atelier, on est tous en vacances. Et après, à partir de là, je dis, non, mais c'est mon sport, je ne veux plus retourner en motocross. Et en fait, je reste en enduro. Mais tu vois, c'était préécrit que j'étais fait pour ça, tu vois. Ouais.
Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi? Alors, je vais te poser la question autrement.
Non, je vais te répondre.
J'ai eu du mal. T'as des trucs pas très gentils à dire sur la Fédé, donc on va dire comme ça. Pourquoi? Pourquoi t'es pas en colère, mais pourquoi t'es désappointé par les relations que t'as à la Fédé? Puis je vais même te poser la question aussi un peu autrement, d'un néophyte comme moi. Comment ça se fait que quand t'as des jeunes retraités, puisque vous êtes tous quand même des jeunes retraités, multiples champions du monde, comment ça se fait que vous n'êtes pas au moins dans les teams France ou pas loin des teams France, en tous les cas, comme conseil, accompagnateur, appelle ça comme tu veux. Pourquoi?
Bon, Nambot, il y est, peu là aussi, il n'y a que moi qui ne suis pas fait pour ça. Alors, on reprend la base, je sors d'un cursus fédéral quand même. Mmh. J'étais pilote d'équipe de France motocross. En fait, on est toute une génération qui sont arrivés, donc... C'est pas parce que t'es crossman que l'enduro ça marche, déjà. Mais par contre, on a eu de la chance, c'est qu'on est arrivé, Johnny Aubert, Nambot, Pela, moi, après il y a eu Larieux, après il y a eu Boissière, il y en a eu. On a plus ou moins bien tous réussi, mais déjà, l'enduro c'est très technique. Plus le pilote il est technique, plus ça va sublimer. Johnny Aubert, c'est un talent de la nature. Et en fait, en enduro, il s'est sublimé parce que c'est son sport, tu vois. Après, il y a un deuxième paramètre, c'est qu'il faut une force de caractère. Johnny, un petit peu moins la force de caractère dans le combat direct. Et du coup, il est passé un peu à côté de certains trucs. Mais par contre, tout ça pour te dire qu'en fait, on n'est pas passé par le cursus fédéral d'enduro. L'entraîneur de l'équipe de France enduro, il est adorable, hein, il est très gentil. J'irai pas en vacances avec, mais il est très gentil. Il est finisher de la Gilles Lallet Classique, quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Et je veux dire qu'en fait, Raoul, il te dit, dans la vie, il y a des sachants. Raoul, c'est un sachant. Et comment tu peux expliquer à quelqu'un une technique que tu n'as pas ? Tu vois, moi, je suis arrivé à l'enduro, j'ai arrivé du cross, j'étais prédisposé, parce que là où j'habite, dans le domaine où j'habite, c'est super facile. Et en fait, je me suis entraîné comme un chien à comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a personne qui m'a appuyé sur l'épaule en me disant « Attends, je vais t'expliquer ». C'est moi qui ai tout découvert, c'est moi qui ai travaillé, et une fois que j'ai travaillé, je suis arrivé là, il a fallu que je travaille encore plus pour creuser l'écart. Et du coup, en fait, tu sais, quand tu passes des journées à calculer comment tu peux mieux passer, mais quand toi, tu travailles avec un entraîneur qui se dit entraîneur fédéral, qui est, pour moi, c'est le summum, tu vois. Je veux dire, nous, nos entraîneurs fédéraux, heureusement que maintenant, il y a Gauthier, tu vois, mais il y a Vendette Bosch aussi. Mais à part ça, moi, je te garantis, ça fait peur. Tu parles d'un côté, t'as Joël Smith, de l'autre côté, t'as De Coster. Tu peux pas comparer De Coster et Finot. Il est gentil, Pascal. À un moment donné, un chat, c'est un chat, quoi. Moi, tu me demandes d'aller faire démarrer le tokamak, je te dis, mais c'est pas mon métier. Et lui, non. Lui, il dit, bah, attends, il touche sur le bouton, moi. Non, mais c'est... Tu vois, c'est un paradoxe. Alors moi, ce qui me rend malade, c'est qu'en fait, on a un patrimoine. Tu sais, en France, on a des cathédrales et en France, on a les champions du monde de moto. Cross, enduro, mais ces gens-là, il faut y aller. Je veux dire, aujourd'hui, tu prendrais Peter Ancel, tu appelles tous les pilotes français. Tu leur dis, il y a Peter qui vient 2 jours, il vient vous donner un stage. Je te garantis que le stage, il se remplit. Et tu repars, t'as appris quelque chose. Même si Peter, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de course. Même moi, qui suis à la retraite, je pense j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de Peter. Mais tu vois la différence ? Et après, c'est un état d'esprit. Après, tu vois, là où je suis vraiment en désaccord, c'est qu'en 2019, j'ai fait les 6 jours pour le motoclub de Zérim pour Kiki Boulet. Et en fait, c'est là, quand tu prends du recul et que tu vois l'équipe de France, à quoi elle ressemble, ça tire la gueule, tu sais, une atmosphère de merde. Mais en fait, ça, c'est les gens qui l'inculquent.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, aujourd'hui, ben, je suis en désaccord. Je suis en désaccord total parce que... cet hiver, ils sont allés faire un stage dans le sable. Je veux dire, on a des spécialistes en France. Tu sais pas faire. Tu prends un intervenant qui, lui, fait un stage et qui apprend des choses à des pilotes. Et là, en fait, ils ont publié une vidéo. Donc, quand tu publies une vidéo, toi, ton métier, c'est ça. Tu choisis que les meilleures séquences.
Ah ouais, c'est de faire un truc joli, quoi. Ouais. Qui donne envie, en fait, qui fait rêver.
Ah ben là, oui, oui, ça faisait rêver. Il y avait des chutes. Ça a bourré de l'avant, les pieds écartés, la position d'avant, la moto, elle bouge de derrière. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est pas possible. C'est pas du tout comme ça qu'il faut rouler dans le sable. Là, tu prends Jet Lawrence et tu prends eux, c'est complètement l'opposé. Et on te dit, je comprends pas. Ah ben si, moi, je comprends de suite. Et là, tu vas remettre tes pieds sur les calepiers, tu vas te mettre un peu en arrière, tu vas regarder loin et tu vas garder du gaz. Ça va être de suite différent.
Et pourquoi t'entraînes pas, toi ?
Alors, j'entraîne pas parce que...
Parce que t'es pas bon ?
Ouais. Non, parce que je suis trop exigeant avec moi-même. Et si j'ai pas une personne réceptive en face de moi avec le même niveau d'exigence, ça marche pas. Donc, en fait, je pourrais entraîner, mais que vraiment tout en haut de l'échelle. Tout en haut pour aller chercher la perfection. Avec le recul aujourd'hui, je peux te dire que je suis capable de... Déjà petit, hein, j'étais capable de passer une journée sur le même virage, tout seul. Et puis, Christophe Meyer m'a inculqué ça. Il n'y a
pas plusieurs manières finalement de devenir champion. Toi, t'as fait ça, mais peut-être Nambot, il a fait autrement, Pelat, il a fait autrement, d'autres pilotes étrangers ont fait autrement.
Les grandes lignes, elles sont là.
C'est-à-dire, c'est quoi les grandes lignes pour toi? Si tu dois résumer, là, les grandes lignes, c'est quoi?
Grosso modo, privilégier la qualité à la quantité. Donc, au lieu de s'entraîner des heures et des heures, faire des heures de moto, ben, tu retournes à la base, travailler la technique, la technique, la technique. Tu sais, grosso modo, hein, je vais t'expliquer. Un pilote qui a des défauts, tu lui fais faire des heures de moto et des chronos, il va augmenter ses défauts. Il ne va pas s'améliorer, le gars.
Oui, on peut penser que si tu lui expliques pas où sont ses défauts, oui, il n'y a pas de raison que...
Oui. Ben si, mais par contre, si tu prends le temps de passer une journée sur un virage, sur un geste, sur une technique, ben le gars, il va s'améliorer. Il va faire 5 heures de moto dans la journée. Par contre, il va s'améliorer. Mm-hmm. Toi, tu lui demandes de faire 10 minutes d'échauffement, 2 manches de 40, il va te cramer un embrayage, une paire de plaquettes de frein, et il n'ira pas plus vite.
Ouais. Il aura toujours les défauts.
Il aura toujours les défauts. Et le problème, tu vois, comme KTM avait demandé à une époque d'entraîner Bellino, 2017, je crois, ça n'a pas marché. 2016, ça n'a pas marché. Mathias, bon pilote, techniquement, gros pilote. Personnage atypique, on l'aime, on l'aime pas. Mais par contre, en fait, tu lui expliques quelque chose, tu lui fais voir que c'est mieux. Il te dit qu'il a compris, tu travailles le virage d'après, le virage d'avant, il refait comme il avait envie. Tu dis, mais moi, garçon, j'ai pas de temps à perdre, et toi, t'as rien à faire avec moi. C'est pas compliqué.
Ouais. Oui, on peut penser que ça, on peut penser, ouais. On sent que t'es déçu, pas blessé, mais déçu, de pas de comportement, mais de finalement de voir ce que, en fait, toi, c'est l'équipe de France, c'est quelque chose que t'as aimé en fait et que t'aimes toujours, et de finalement de pas voir les Français toujours au top, c'est un truc qui t'ennuie, c'est ça que tu veux dire en fait?
Oui, c'est pas que ça m'ennuie, c'est qu'on pourrait enclencher des champions à l'appel. On a un savoir, on a, tu comprends ce genre, on a un patrimoine, on a un savoir, on l'utilise pas pour des raisons que j'ai mon a priori dessus, j'ai pas envie de le dire. Moi, ça me fait chier parce que chaque année, on pourrait sortir un champion du monde. Chaque année. Et là, on le fait pas. Et là, en fait, il y a des jeunes pilotes qui arrivent qui ont un potentiel. Et en fait, on les aide à s'enterrer. Tu sais, le jeune, au lieu de l'aider à réussir, tu l'aides à s'enterrer.
Toi, c'est comme ça que tu analyses les trucs, là. Quand tu parles des entraîneurs de l'équipe de France, c'est ça que tu veux dire?
Grosso modo, ouais.
Il les aide à... Moi, je sais pas, je suis pas du tout dans le monde de la moto, je dis ça pour tout le monde, là. Voilà, mais du coup, les entraîneurs équipe de France, pour toi, ils sont pas au niveau, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, toi, tu veux vraiment chercher la merde. Mais ils ont pas le savoir. C'est compliqué, quand il y a pas le savoir. Moi, je peux pas faire prof de maths. Je sais pas faire. Et je reste à ma place. Non, mais après, je suis...
Non, mais on s'en fout, on te demandait d'aller vite sur une moto. Exactement. Dans des spéciales. Ça, voilà. Je pense que là, pour le coup... T'as un peu montré que tu savais faire, quand même. Un tout
oui,
petit peu.
Oui, tout à fait. Mais du coup, moi, ce que je sais pas faire, je vais pas l'inventer. Si j'ai envie, je m'intéresse, j'apprends énormément, je me cultive, mais je vais pas t'expliquer comment il faut faire. Tu joues au rugby, tu sais jouer au rugby, je vais pas arriver, je vais dire, oh là là, passe, elle était pas bonne. Je sais pas faire. Et là, tu vois, c'est des gens qui savent faire ça, et en fait, non. Et après, voilà, c'est comme ça.
C'est dommage.
Mais complètement. Et puis les gens, ils croient... Les gens, ils rêvent du monde des bisounours. La vérité, elle est là. Tu veux l'entendre? Ben oui. Tu veux pas l'entendre? Ben fais ton avis. Ça a pas marché.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, bon, déjà? D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Déjà, tu fais 4 stages par an. Donc, grosso modo, t'as fait un tous les 2 mois avec un champion du monde différent. C'est facile. De 2 jours. Déjà, tu ramasses tous les pilotes qui traînent. Tout le monde veut venir. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Tu fais des pas. Tu sais, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Christophe Nambotin, déjà, moi, quand j'avais 14 ans, je suis arrivé en équipe de France, que je t'expliquais que l'équipe de France m'a sélectionné. Lui, il était avec Jackie Limon. Il était officiel pilote Kawasaki et il était officiel Oxbow. Je te garantis qu'à cette époque-là, quand t'as habillé Oxbow, mon parent, c'est même pas s'il avait un contrat Nike, c'était la classe. Et en fait, il roulait, mais c'était la folie. C'était la succession de Tortelli. Mmh. Après, ben, on va l'asseoir ici, il va nous le dire. À un moment donné, ben, il faisait un peu trop la fête, un peu si, les gonzesses. Et Jackie lui a demandé de choisir, il a choisi une direction. Et après, de suite, plus compliqué.
Ouais.
Mais si Nambotin a eu cette carrière, c'est grâce à Jacky Vimont. Il aurait pu avoir mieux, mais s'il a fait ça, c'est grâce au bagage de Jacky.
T'en parles souvent de Jacky Vimont.
Ben, il a marqué ma carrière. C'est indéniable. Il a marqué ma personnalité, il a marqué mon caractère, il a marqué beaucoup de choses. On a travaillé 3 ou 4 ans ensemble. Mmh. C'était super agréable. On a travaillé ensemble quand j'étais arrivé à un stade de maturité. J'avais 23 ou 24 ans. J'y suis allé de mon plein gré. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie.
Mmh. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé.
Qui n'est pas réceptif. Mmh. Du coup, là, moi, j'y suis allé. Premier jour, ça a matché. Il me dit, oh là là, toi, il y a un problème. Ben, tu sais, moi, Jacky Vimont, c'était un pilier, la chance de la... Parce que déjà, je l'appelle, je dis, voilà, je voudrais qu'on essaye de faire un stage, tout ça, ça m'intéresse un peu. On avait discuté sur une course. Et on va chez Musquin faire une journée Supercross. Je voulais travailler le Supercross, parce que je faisais le championnat d'Europe. Et on roule la première journée. Déjà, au bout de 10 minutes, il m'arrête. Il me dit, pourquoi tu rentres aussi vite dans le virage ? Et moi, je dis, pour sortir vite. Et il dit, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Il me dit, t'es fou, toi, tu arrives trop vite. Bon, il me dit oui, ralentis, tu vas voir, ça va aller mieux dans le virage. Bah, déjà, beaucoup mieux, tu vois. Il me corrige et tout, je dis putain, le vieux, pas mal. Et puis là, il se met à pleuvoir. Le matin, on ne pouvait pas rouler le lendemain. Il me dit écoute, ça te dit de rouler dans le sable ? Moi, j'avais pas du tout la moto, tu vois. Ouais, je dis ouais, pourquoi pas ? Il me dit ah, je voudrais voir un truc. Donc, on part, on fait 200 bornes, on va sur un autre circuit, sauvage. On n'y est allé qu'une fois d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Et je me souviens très bien, en fait, il y avait eu. C'était sur une colline. C'était un circuit à lui qui s'entraînait avant dans les fougères, défoncé. Et en fait, il y avait une marche en descente, tu vois, avec des gros trous en bas. Et en fait, on fait les tours. Donc, il me fait partir pour une manche. Donc, je me mets à rouler. Et là, tous les 4-5 tours, il me faisait signe de sauter plus loin. Et du coup, je commence à sauter les trous de plus en plus loin, tu vois. Puis au bout d'un moment, il me faisait signe à fond. Je suis putain, il est chaud le vieux. Tu vois, j'en souviens encore. Je dis putain. Voilà, je tirais comme un fou pour sauter, mais loin. Et après, je sentais que la manche, on n'arrivait pas loin de la fin. Et il me montrait, tous les deux tours, il me faisait un tour. Je dis putain, il m'embrouille un con, lui. Je dis, tu sais, c'est Jacky Vimont, tu continues à rouler. Au bout d'un moment, il m'arrête, il fait, mais t'es con, quoi. Je dis quoi ? Et il me dit, à chaque fois que je te mets un tour, tu continues. Ben, je dis ouais. Ah, et tu me remets un tour. Ah ouais, il me dit, c'était pour voir... comment il m'avait expliqué ? Pour voir ta...
Ton engagement, si tu...
La confiance que j'avais en lui, ouais. Tu vois. Et il me dit, mais à un moment donné, tu vois pas que... Pourquoi tu sautes aussi loin ? Bah, si tu me fais signe, oh, j'y vais. Et il me dit, mais toi, t'es complètement fou. Et du coup, tu vois, j'ai donné une confiance aveugle. Et du coup, alors malheureusement, j'ai travaillé les 2 années que j'ai travaillé avec lui en cross, j'ai pas eu les résultats que j'aurais mérité. J'ai pas eu le retour sur investissement et j'ai pas eu ce que j'aurais dû mériter. Tu vois, donc je l'ai payé très cher. 2 grosses blessures et derrière pas les résultats, bref, très compliqué. Par contre.
Marqué par l'entraînement du bonhomme.
Le personnage.
Ouais.
Ouais, le personnage exceptionnel. Il nous a appris avec Gauthier, parce que du coup, Gauthier arrive en même temps. Et ouais, si Gauthier, il a eu cette carrière aussi, c'est grâce à Jacky, tu vois. Et non. Alors, pour en avoir reparlé avec Gauthier plusieurs fois, en fait, Gauthier est trop jeune, pas assez réceptif. Limite, il te dit, en fait, ce que tu m'expliques, j'ai un souvenir dans du brouillard, tu vois.
Ouais, d'accord. Et ça n'a pas marqué autant que toi ? Ou en tous les cas, il n'était pas prêt peut-être
à le recevoir. Il n'était pas prêt à le recevoir. Mais quand même, Gauthier, malgré tout, Jacky en a fait vraiment ce qu'il est devenu. Ça, c'est parti en cacahuète après à cause de relations personnelles. Mais voilà, grosso modo, la base, elle était là.
Je voudrais te poser une question parce que ça va nous servir pour le reste des entretiens. Pourquoi t'as envie de faire ces podcasts, d'aller voir, je vous rassure tous, ce sera plus moi qui interviewe, il y aura que des vrais pilotes de moto. Pourquoi t'as envie de faire cette série de podcasts et d'aller voir d'autres pilotes, d'entraîneurs, des gens importants dans la moto, ou pas importants d'ailleurs, mais moins importants, mais importants à tes yeux. Pourquoi ?
Alors déjà, d'une part, pour que les gens comprennent mon raisonnement, parce que souvent les gens ils me disent « Ouais, mais t'es dur, ouais, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. » Et après, d'un autre côté aussi, parce que j'en ai marre de me justifier. Tu sais, quand les gens me disent « Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on ait des champions ?» Eh, pas grand-chose. Changer une personne, ça va changer le reste.
Après, voilà. En allant voir tous ces champions, c'est ta manière à toi de dire
« Non, de leur montrer. » Tu vois, moi, j'ai envie d'aller voir Tortelli qui m'explique. Moi, j'ai des millions de questions à poser à Tortelli. Je veux qu'il soit assis là et je te garantis qu'il va répondre à des questions. Non, mais parce que...
Qui d'autre ?
J'aimerais bien aller voir Jackie. En fait, j'aimerais bien aller voir Jackie pour avoir le retour de comment lui, il a vécu travailler avec moi. J'aimerais bien aller voir Pourcel. Pourcel, on en a gardé une image à la fin un peu décevante, mais j'aimerais bien qu'il soit là. Nous expliquer tous ses vrais problèmes, son caractère. Moi, je l'ai côtoyé quand il était petit, il m'a marqué, tu vois. Mm. J'ai envie d'aller voir Bollé, j'ai envie d'aller voir Gauthier.
Et des plus jeunes aussi, peut-être ? Ou pas ? C'est-à-dire, oui. Ce serait intéressant de te voir discuter aussi avec des plus jeunes et justement pour comprendre leur état d'esprit sur le Alors, travail.
Déjà,
sur...
Ouais, déjà, je voudrais qu'on fasse toute la belle brochette de vrais champions. Tu vois, j'aimerais avoir l'occasion d'avoir Villemain, tu vois.
Mm-hmm.
Villemain, sacré personnage. Pichon. Mais vraiment, tu vois, déjà avec des gens avec du savoir.
Ouais.
Déjà, on valide tout ça. Et après, oui, on va à la rencontre de jeunes. Forcément, avec un jeune, ça va faire des étincelles. Le gosse, il va s'asseoir. Tu vois, Bénistan, il passe à côté, quoi. Si on ne l'aide pas aujourd'hui, Bénistan, il va rater le bus. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est la triste vérité, quoi. Bénistan, il commence à être un peu âgé, le MX2, ça va vite passer. Si dans le MX2, tu ne sors pas dans les premiers, tu ne chopes pas la bonne moto pour le 4,5, tu vois, c'est un cercle vicieux. Après, Rossi, c'est le fils d'un très bon ami à moi. Je l'ai connu, il avait 4 ans, 5 ans. Il est venu après les Nations, ça m'a fait plaisir, il s'est assis à table, on a discuté. Dur, il est au pied du mur. Il n'est pas arrivé, il est au pied du mur. Et là, le pied du mur, il fait mal. Il en laisse un paquet par terre. Donc, en fait, la violence. Là, tu arrives, j'ai dit, mon garçon, c'est super bien. Et là, ça commence. Comment ça commence ? C'est à partir de maintenant qu'il faut travailler. Tu vois ce genre ? Et ça, quand tu as 17 ans, tu viens de signer un contrat à Red Bull chez GazGaz, ça fait du mal aux dents.
Ouais, tu comprends pas, en fait.
Ben ouais. Après, il faut des mots. J'ai peut-être pas le tact, j'ai peut-être pas ce que tu veux. Moi, je dis que la vérité.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais...
mais au moins, c'est honnête et c'est franc. Non ?
Oui, oui, oui. Tu vois, ça me fait chier. Un jeune d'ici qui a un potentiel, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Là, tu dis, là... Et pourtant, tu le préviens. Mm. Moi, je l'ai vu il y a un an. Il m'a dit, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit, ça, tu seras que champion d'Europe et tu iras pas plus loin. Ça, tu vas prendre des branlées. Mais dans 2 ans, tu es là. Et t'as quel âge ? 17 ans, t'es en retard. C'est comme ça,
C'est organisé comme ça.
T'as pas de solution. En fait, il n'y a pas de miracle. Il faut aller au mondial en enduro, prendre des branlées entre 15 et 18 ans, et ça va payer. Tu vois, il y a deux exemples. Ouais, mais il y a deux exemples. T'as un Garcia produit typiquement que enduro. Il n'a jamais fait de cross. Je l'ai vu. Et je m'en souviens encore parce que sa tante était très jolie. Du coup, je m'en souviens très bien. Première course, c'était à Solsona 2012. D'accord ? Et tout petit, 16 ans, mais vraiment tout petit. Il roulait avec une 125 Husky et c'était pas une arme. Toute l'année, il a pris des branlées, toute l'année. 17 ans, champion du monde. Verona, il est arrivé... produit typiquement enduro, tu vois. Et j'entretiens une bien meilleure relation avec la fédération italienne. Les pilotes de l'équipe d'Italie, c'est des anciens pilotes. Tu vois, il y a Zani, il y a Cristiano Rossi, il y a Traversini. C'est que des gens qui ont roulé à haut niveau, qui n'ont pas fait une course, ils ont roulé. Traversini, vice-champion du monde. Rossi, je crois qu'il avait joué un titre. L'autre, tu vois, c'est des gens qui ils savent de quoi ils parlent.
Ouais.
Et en fait, Zani, il y a un petit moment, je ne saurais plus te dire quelle date, vraiment, il me dit, putain, il y a un jeune qui vaut quelque chose et tout, il me fait voir Vérone. Il roulait avec un 125 TM, je le vois, il me le fait voir au training. Il me dit, t'as vu celui-là, dans quelques temps. J'avais une analyse, tu vois, j'ai dit, non, là, je suis désolé, là. Une technique de virage très particulière. Vraiment difficile à analyser parce que...
Son truc alors, à lui.
Déjà, il faisait un truc que moi, je n'étais pas capable de faire. C'est compliqué, tu vois, de juger. Je dis, ben là, franchement, chaud, tu vois. Gosse, il arrive, il n'y a pas vraiment de freinage, pas vraiment d'accélération, fait glisser la moto. En fait, c'était un mélange de beaucoup de techniques. Très grand, il bougeait beaucoup son corps sur la moto. Pas une grosse technique en l'air. Je dis, putain, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? À la limite, j'y sape le moral, tu vois. Je dis, là, franchement, je sais pas. Je peux pas, j'y crois pas. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Mais parce que, gros avantage du pilote, remise en question. Verona se remet perpétuellement en question.
Et l'entourage, j'imagine.
L'entourage. Mais du coup, vu qu'il se remet en question, il progresse. Et il valide. En fait, t'as des pilotes qui progressent, mais qui valident pas derrière. Et du coup, ils régressent. Et ils font le yo-yo tout le temps comme ça. Et du coup, bah, ils avancent pas. Pour avancer, en fait, il faut valider des acquis et tu passes à l'étape supérieure.
J'ai encore une question qui va sûrement pas être facile. En quelques mots, si on veut résumer un peu tout ce qu'on s'est dit là, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ton message envers les jeunes ou envers les plus jeunes, les pilotes, en tous les cas les pilotes, pas forcément jeunes. Et c'est quoi ton message envers les entraîneurs et peut-être même la Fédé? En quelques mots, qu'est-ce que tu as envie de dire?
Il faut restructurer tout ça. Il faut mettre un frein aux filières éducatives, moto d'origine. On autorise un pot d'échappement et suspension préparée. Terminé, pas plus. On arrête tout le reste. Tu vois, par exemple, le petit voisin là, qui roule avec mon fils s'appelle Chaillol, que je t'ai expliqué que je maîtrise son père. On l'a envoyé faire deux épreuves du championnat de France Enduro Kid. Il a pris Yamaha, qui n'est pas la meilleure moto du plateau, qui est loin d'être la meilleure. Elle est d'origine et les a massacrés. Et là, les autres, ils ont des motos à 12 000 balles. Donc, en fait, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Du business ou sortir des champions? On veut sortir des champions. Déjà, pour avoir plus de monde sur la liste de départ, on met tout le monde avec des motos d'origine. Ça coûte moins cher. Et on revient juste à la base. Le pilote, le talent. Et on organise des stages, des structures pour techniquement faire évoluer nos pilotes.
Détecter les potentiels.
Alors ça, c'est vraiment pour l'éducatif. Après, je pense qu'en équipe de France, le job de l'entraîneur, alors on va appeler ça un sélectionneur, plus joli. Le sélectionneur, il faut juste déléguer. Je veux dire, on a la chance de pouvoir déléguer. Putain, tu appelles des anciens pilotes, tu leur dis, écoutez, vous venez deux jours, faites une formation, c'est un sachant. Je veux dire, dans Botin, il a été ambulancier. En fait, la force, notre force, je pense, dans notre génération, c'est qu'avec Nambot, on a raté le coche en cross. Tu vois, si moi, aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que j'ai raté en cross, pourquoi j'y suis pas arrivé, je te sors la liste exacte de ce que j'ai raté. C'est pour ça que j'ai réussi en enduro. Ouais. Parce que les erreurs que j'ai fait en motocross, je les ai pas refaites. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Là, aujourd'hui, ils ont sorti... Tu vois, Seb Guillaume, c'est un très bon pilote français d'enduro. Malheureusement, il lui a manqué chaque année ça pour être champion du monde. Malheureusement, il a voulu se mettre à aller chercher ce qui lui manquait trop tard. Tu sais, au bout d'un moment, t'as du mal. Et là, aujourd'hui, la nouvelle génération, ils refont pareil. Mais arrête, ça sert à rien. Là, il faut maintenant... Tu vois, ils attendent de sortir un pilote de motocross. Et...
Formons des enduristes, quoi.
Oui, mais moi, quand on me dit on va faire comme les Italiens, on va prendre un pilote du cross comme Verona, je dis non, mais Verona, arrête de parler, toi, tu sais pas. Et pourtant, c'est le directeur technique de l'enduro, tu vois. Qui dit, mais tu sais même pas de quoi tu parles. Et pareil pour Garcia. Garcia, pour moi, c'est le pilote le plus rapide au monde dans un virage. Mais par rapport à son gabarit, par rapport à tout ce que tu veux, et c'est un pilote qui n'a jamais fait de motocross. Tu le mettrais sur une grille de motocross, il n'est pas dégueulasse. Et il n'a jamais fait de championnat de motocross. C'est un produit purement enduro. Donc en fait, juste, c'est possible. C'est juste qu'en fait, l'entraîneur en face, il faut qu'il soit bon.
Ouais.
C'est juste ça. Tu peux faire progresser n'importe qui, mais en face, il faut des bonnes personnes. On les a. C'est juste qu'en fait, on ne veut pas. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que, tu vois, après, tu as un gars comme Blanjou, j'ai envie de l'aider. Il n'a pas envie. Tu ne peux rien faire pour lui. C'est compliqué.
Et après, compliqué, tout... non, pas compliqué, mais ça se comprend en tous les cas. Et puis toi, ce sport, tu l'as tellement aimé et tu l'aimes tellement que c'est, on peut comprendre que ça te blesse.
Oui, après moi, je me suis mis des doses d'entraînement monstrueuses. Ouais. Mais vraiment, où... tu vois, en fait, il y a un pilote qui pourrait venir témoigner, qui n'a pas été champion, qu'on pourra l'asseoir là. Et lui, il va te dire déjà, parce qu'il était mature, ce qu'il a vraiment vu de moi. Parce que après, les gens, ils disent « Ah, t'es Marseillais, t'exagères. » Ok, lui, il va venir, il va te dire. Il n'y a pas de secret. Moi, en fait, je me mettais tellement des exigences à l'entraînement que le jour des courses, c'était tellement facile que nous, au CH, au championnat du monde, avec le mécano, l'entraîneur et les potes, dans la journée de course, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait manger au barbecue le soir.
Ben ouais.
Et en fait, tu te dis, putain, mais pour expliquer le gap que j'avais.
Ouais, bien sûr.
Après, avec Paula, c'était différent. On avait... c'était vraiment engagé les deux. Mais grosso modo, c'était ça, quoi. Et là, tu dis, mais... Et en fait, les gens, ils comprennent pas le... Quand t'en arrives à ce niveau-là, à réfléchir à ce que tu vas manger le soir...
Bon.
C'est pas la même chose, tu vois.
Qui a été ton adversaire le plus dur? C'est celui dont tu m'as parlé en Italie.
Le Finlandais,
ouais. C'est le Finlandais,
ouais.
Bien sûr. Oui, parce que tu m'as expliqué que, je sais plus quel pilote, tu m'as raconté qu'il était toujours derrière, il galérait, et en fait, non, celui qui était devant, en fait, était toujours 20%, il roulait 20% en dessous de ce qu'il pouvait, en fait, les mecs revenaient derrière, et lui, il pouvait accélérer sans
ça,
problème.
C'est le Jet Lawrence.
Voilà, on en a parlé. Et toi, j'ai rebondi en disant, toi, t'as subi un peu ça aussi.
Alors, c'était un peu différent. Tu vois, Jet Lawrence, comme tu dis, il a une marge de 20%. Donc, c'est-à-dire qu'il roule, Sexton revient, il a 20% de marge et repartir. Du coup, il a fait
ça. L'autre derrière, il est à fond.
L'autre, il est à fond. Et du coup, ben, il a fait ça deux manches. L'autre, il est parti en dépression pendant deux week-ends. Non, mais sans rien. Moi, j'ai vécu différent. Moi, j'ai vécu un gars qui n'a pas de technique et qui te met des branlées. Et ça, c'est violent parce que tout ce qu'on t'a appris pendant des années. L'autre, il n'a pas les pieds sur lesquels pied, il est assis en arrière, il a les coudes en bas et il met du gaz. Il a un cœur gros comme ça et mentalement dur, très dur, mais violent. J'ai roulé deux saisons contre lui, contre Aula.
C'est toujours la dernière spéciale qui te mettait une petite quiche, hein, je crois, c'est ça.
Personnage exceptionnel. Et surtout, il faisait, ça a un nom dans la psychologie, il t'annonçait ce qui allait se passer. Ça, c'est violent. Tu vois, moi, ça m'est arrivé un jour en championnat d'Italie. Je gagne le premier jour. Le soir, il me dit tu m'as énervé, demain, tu vas prendre. Je dis, mais tais-toi, le vieux, aujourd'hui, je t'ai mis une branlée, tu fais chier. Le lendemain matin, on arrive, il me dit ah, tu vas prendre. Sa femme, elle me dit il n'a pas bien dormi, tu vas prendre. Je dis ah, mais fermez vos gueules. Donc, on part, c'était trois tours, on fait les deux premiers tours. C'est moi qui étais en tête. On arrive à l'amorce du dernier tour. Au moment de pointer, il me tape sur l'épaule, il dit « La course d'enduro, elle commence maintenant. » Puis laisse tomber. Tu vois, on rigole. Part. Donc la spéciale, c'était la sixième fois qu'on la faisait. J'avais du genre gagné les cinq premières. Là, d'un coup, il m'en met 10. D'un coup. Quand tu sors de la... Mais je te jure, c'est comme si Tyson, il te fout une droite, tu vois. Quand tu sors au truc, il te dit 10. Tu dis « Oh là là là, 10 ?» Mais c'est pas possible. En plus, ce qui est violent, c'est que le suiveur était tombé. Mais non, j'ai fait le même temps que tout à l'heure. Mais tu sais, tu repars, tu dis putain. Donc là, tu réfléchis, tu dis putain, la spéciale d'après, c'est dans des graviers. Il y a des ornières, je vais défoncer les appuis. Tu vois, alors là, je vais reprendre 10. Là, je pars, mais je te jure, je donne tout ce que j'avais. Même un peu plus que ce que j'avais pas. Je sors de la spéciale et sa femme, elle est deux crons. Elle me dit ah là, tu vas prendre. Ouf, là, tu vas prendre cher. Fermer sa gueule. Il m'en remet 10 ou 11. Tu sais, mais tu te dis, mais putain, comment il fait? Et il sortait au frein, les coups d'en bas. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Tu sais, en fait, il avait cette capacité. Du coup, il m'en remet 5 dans la...
La dernière.
J'en prends 20 dans un tour. Je me dis, putain, mais comment c'est possible? Et ça, il me l'a fait régulièrement.
Il est rentré dans ta tête?
Non. Il y a des jours... il était loin de ma tête. Hein.
Ouais.
Un jour en Sardaigne, il y avait une très grosse ligne. Je sors de la ligne, il me dit c'est bien. Donc déjà, quand il te dit c'est bien, c'est jamais bien. Je dis combien j'ai pris ? Et ils me disent non, non, mais c'est bien, tu fais deuxième temps, c'est bien. Je dis non, mais combien j'ai pris ? Tu fais devant Johnny Aubert. Il était dans la catégorie d'à côté. Je dis mais je m'en bats les couilles, Johnny Aubert. Il m'a mis combien ? 21. À froid, 9h du mat, 21, tu sais, t'es sur la moto. T'as...
Ils sont trompés.
Tu sais, tu dis combien ? 21. Là, tu repars, bah. Et là, tu commences à calculer, tu dis il y a 3 tours, 21. Tu dis là, l'addition, elle va être salée, là. Là, tu dis bon, il y a une extrême, une ligne, une extrême, une crosse, je vais pouvoir un peu récupérer. Tu dis grand max, j'en récupère 5 ou 6. Non, mais 21. Et ouais. Après, on en revient à la question. La faculté à apprendre.
Ouais.
Cette course, j'ai pris la branlée. On a pris le bateau ensemble le soir. Il m'a titillé gentiment. On était amis, tu vois. On est arrivé ici. J'ai acheté des tronçonneuses, des broussailleuses, tout ce que tu veux. On a refait exactement le même spécial. Je l'ai poncé pendant 4 mois. On a eu la même course. C'est lui qui a pris. Mais voilà, c'est une faculté à se remettre en question.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai appris seul. Tu vois, tu peux demander à mon père va dire, non mais lui, il était mongolien, il est parti acheter la plus grosse des broussailleuses, le machin, ils se sont mis là une semaine, et après j'ai limé pour arriver à ressortir le résultat qu'il fallait, tu vois. Mais j'avais besoin de personne. Et tout ce que moi j'ai appris, comment une personne qui ne le sait pas peut l'apprendre à quelqu'un d'autre ? Difficile ?
C'est la question. Mais on va essayer d'y répondre.
Moi j'ai une question, c'est quoi qui faisait que... au moment où toi tu te dis putain mais c'est pas possible, ça te rend fou, tu vois, mais lui du coup c'était quoi sa technique, enfin, c'était quoi le truc qu'il faisait que putain 21 secondes,
voilà 21 secondes, il avait une technique que j'avais pas, il faisait des choses que je faisais pas, j'ai dû analyser beaucoup les vidéos. Après il m'a fait un coup en Slovaquie, toute la journée en tête avec 5 ou 6 secondes d'avance tout le temps, tu vois, il en prenait une, je reprenais une, mais j'étais tout le temps devant lui. On arrive à la dernière extrême, je fais le meilleur temps de la journée de tout le monde. Donc moi, je rentre, je fais ma spéciale, je sors de la spéciale, meilleur temps de la journée, tu vois. Donc je me dis, c'est bon, j'ai enfin gagné ma première épreuve du mondial. Lui, il avait bloqué l'entrée de la spéciale, il m'avait tout regardé rouler. Il me regarde sortir, il fait comme ça. Il applaudit. Il rentre dans la spéciale, j'en avais 5 d'avance, j'en ai 6. Je perds pour moins d'une seconde. Et là, en fait, ben, au courage. Beaucoup d'engagement, tu sais, il arrivait à la limite dans les virages. Après, je pense que c'était son style de pilotage. Parce qu'il tombait, quand il faisait ça, il tombait pas souvent.
Et est-ce que c'était pas aussi le fait d'être toujours un peu calé derrière toi ? Il était à l'abri, en se disant tout le temps, bah, ok, lui, il fait ça, je le colle,
En cross, ça pourrait marcher, mais là, en enduro, non.
Bah, t'as l'observation quand même, ce que tu viens de dire. Le mec, il te regarde passer.
Ouais, c'est plus compliqué que ça quand même.
Ouais.
Mais non, lui, c'était sa faculté. Tu vois, je crois qu'une fois. Il a calé dans un virage, du coup, il n'a pas réussi à faire la manipulation parce qu'il a massacré Cervantes en faisant ça. Et moi, ouais, non, moi, c'était... Puis je te dis, après, il était aussi super humble parce qu'une fois, il gagne son titre en 2009 en France. Et moi, en fait, j'avais gagné les 3 dernières courses du mondial à la filée, tu vois.
Ouais.
Et j'étais revenu à 12 points de lui, mais en début d'année, j'ai eu grave de problèmes à ma moto. Et du coup, il restait une épreuve du championnat d'Italie, on était ex aequo. Et tu vois, le gars, il est arrivé en championnat d'Italie à la course le week-end d'après. Il me dit, écoute Antoine, le gars qui gagne ici, c'est le meilleur nous deux. C'est lui le vrai champion. Je dis quand même... Tu vois, il a des couilles de dire ouais. Ça. Et du coup, on s'est ressouillé jusqu'à la mort, et il monte en l'air. Mais voilà, après, tu vois... Mais c'était un sacré personnage, il m'a beaucoup appris lui.
Bon, bah j'espère que les podcasts leur plairont à tous.
Exactement. Merci Alban pour ta question.
Ouais, merci à toi.
Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous une bonne note, ça nous encourage vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour nous soutenir. Production CP Press, réalisation Antoine Méo, chez moi prod à la technique et plein de petites mains qui nous ont permis d'être là. Merci à elles et à bientôt.